Évadez-vous en suivant Sur le Pont des Arts avec la compagnie Corsaire et ses vols vers Paris, l'Afrique et l'océan Indien.
Sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
On y croise des arbres qui parlent et une hyène qui ne veut pas parler, un lionceau curieux des hommes et une princesse joueuse. Des histoires graves ou magiques pour les enfants, mais pas seulement. Voici les contes et merveilles d'Afrique de l'Ouest, sous la plume et avec la voix d'un récidiviste du genre, Souleymane Bodj, philosophe, conteur, éducateur, musicien, jamais à court de légendes, celle de son Sénégal natal et des autres pays aussi. Son dernier ouvrage vient de paraître chez Milan, et il est avec nous sur le Pont des Arts. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue à vous, Souleymane Bodj, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes venu pour notre plus grand plaisir avec votre guitare, on va vous entendre tout à l'heure. Dans votre livre, il y a un sorcier malfaisant qui enferme les rires des enfants dans la caisse de résonance de sa guitare. Rassurez-nous, il ne nous arrivera rien de tel, ni
non,
ici,
non,
en studio, ni à ceux qui
rassurés,
nous écoutent.
Je vous rassure, non.
on aura en tout cas le plaisir de vous entendre nous conter une de ces histoires merveilleuses en musique. Guitariste comme vous, Didzi Mandjeku, légende vivante à Kinshasa. Il a joué avec les plus grands noms de la rumba depuis les années 60. Il remonte sur scène après 8 ans d'absence. Et il sera en ligne tout à l'heure, à la veille de ce concert prévu à la halle de la Gombe à Kinshasa. Et puis évidemment, pas de jeudi sans le Café Polar de Catherine Fruchon-Toussaint. Bonjour Catherine.
Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, une série policière intitulée « Les folles enquêtes de Magritte et Georgette ».
Oui, sous la plume magique de l'écrivaine Nadine Monfils, le célèbre peintre et son épouse se piquent de résoudre des mystères en Belgique mais aussi en France. Et pour leur 8e aventure qui vient de paraître sous le titre « Patakès à Cadaqués », les voilà en Espagne, chez le grand Salvador Dali.
Moi, je crois que l'amour de Dylan n'est pas fou, parce que j'ai toujours dit que l'unique différence qu'il y a entre Dali et un fou, c'est que je ne suis pas fou.
RFI, sur le Pont des Arts.
Et pour ouvrir cette émission, on est à Nairobi, puisque le Kenya vient de perdre l'une de ses plus célèbres plumes, Ngugi wa Thiong'o, 87 ans, dont le nom figurait régulièrement parmi les possibles prix Nobel de littérature. Bonjour Gaëlle Lalex.
Bonjour.
Il avait fait le choix courageux, lui qui avait été marqué par la colonisation, d'abandonner l'anglais pour écrire dans sa langue, le Kikuyu.
Oui, c'est un choix qu'il fait en 1977. Je me marierai quand je le voudrai. Et sa première œuvre en Kikuyu, la langue de la région du Mont Kenya, la pièce aborde la question de la lutte des classes dans le Kenya post-colonial. C'est l'histoire de l'exploitation des paysans par la nouvelle élite politique et économique du pays. Ce choix linguistique coûtera cher à Ngugi wa Thiong'o, car rapidement, le président Jomo Kenyatta interdira la pièce et l'auteur se retrouvera en prison. Écoutez-le.
Quand j'étais en prison, je me demandais pourquoi un gouvernement africain post-colonial me met dans une prison de sécurité maximale pour avoir écrit une pièce dans une langue africaine. J'avais déjà écrit des œuvres en anglais qui étaient critiques et jamais on ne m'avait enfermé. Il y a quelque chose qui cloche là et c'est là que j'ai commencé à penser à la colonisation. Le processus pour briser les peuples colonisés passait par la langue. Si vous supprimez leur langue, ils oublieront bientôt qui ils sont.
Ngugi wa Thiong'o a mis à profit cette année d'enfermement puisqu'à sa sortie, il publie Le Diable sur la Croix. La légende raconte, Nathalie, qu'il l'aurait écrit sur des feuilles de papier toilette de sa cellule. Mais surtout, son emprisonnement nourrira une œuvre majeure de l'auteur, un essai intitulé « Décoloniser l'esprit ». Jamais Ngugi wa Thiong'o n'écrira de nouveau en anglais.
Alors Ngugi wa Thiong'o est le premier écrivain kényan et même d'Afrique de l'Est de renommée mondiale. Gaëlle, l'influence de son œuvre a largement dépassé les frontières de la Corne de l'Afrique ?
Oui, il est aujourd'hui reconnu comme un écrivain majeur pour tout le continent et même le monde. Hier, l'ancien président sénégalais Macky Sall lui a rendu hommage, le décrivant comme une figure emblématique de la littérature africaine et ardent défenseur de la dignité de nos peuples. Ngugi Wa Thiong'o a participé à façonner la conscience de notre africanité pour toute ma génération, a déclaré la fameuse actrice et réalisatrice nigériane Jok Silva, d'après l'auteur nigériane Chimamanda Ngozi Adichie. Ngugi Wa Thiong'o était un incontournable. Elle l'explique dans une interview en 2022.
Quand j'ai grandi au Nigeria, il y avait des livres que tout le monde connaissait. Enfant ne pleure pas, le premier roman de Ngugi Wa Thiong'o, en faisait partie. Je l'ai adoré. J'ai aimé la romance et son astuce politique. Il représente aussi pour moi une sorte de réveil à l'idée d'une Afrique qui n'était pas que le Nigeria. Et je me sens fière d'appartenir à cette génération littéraire africaine et moderne qui a pu avoir comme guide le grand Ngugi Wa Thiong'o.
Au Kenya, il aura quand même fallu attendre 45 ans pour que la pièce « Je me marierai quand je le voudrais » soit rejouée. C'était en 2022.
Ngugi Wa Thiong'o qui s'est éteint donc en Californie à l'âge de 87 ans. Merci Gaëlle Lalex en ligne de Nairobi, envoyée spéciale permanente d'RFI au Kenya. Je vous renvoie évidemment à notre site rfi.fr pour trouver l'entretien avec son traducteur en français et un numéro de Littérature sans frontières également avec Catherine Fruchon-Toussaint. Souleymane Bodge, avec nous pour les contes et merveilles d'Afrique de l'Ouest. On vient d'évoquer la mémoire d'un essayiste, d'un homme de théâtre, d'un romancier. Quelle est, à vos yeux, à vous, la force du conte et singulièrement du conte africain par rapport à toutes les autres formes d'expression, Souleymane Bodge ?
Ben, la force du conte africain, c'est, disons, sa portée d'abord éducative et aussi sa portée, disons, cette institution qui relie les gens, les générations. C'est aussi un objet qui permet de réfléchir sur ce qu'on dit le passé, le présent et l'avenir. Par exemple, on dit que le conte africain, c'est une histoire d'hier racontée aujourd'hui pour le lendemain.
Dont il faut tirer les leçons pour le lendemain, c'est
absolument,
ça ?
Absolument, voilà.
Avec aussi plusieurs niveaux d'interprétation. Vous le disiez, c'est un outil éducatif parce qu'on peut interpréter une histoire au premier, au deuxième, au troisième niveau, en saisir peut-être le sens petit à petit au fur et à mesure qu'on grandit.
Oui, bien sûr. Et puis, il y a aussi le côté divertissement aussi, hein, aussi le côté d'utilité. Ouais. Par exemple, on sait que le conte, quand il fait bon ou quand il fait chaud, quand il fait froid, ça peut être aussi un objet utile. Par exemple, il y a un dicton qui est assez célèbre d'ailleurs, qui dit « Pour les fileuses de coton, pendant les longues nuits de la saison froide, mon récit est un passe-temps. »
Oui, il rafraîchit, voilà. Il fait oublier le temps qui est parfois un petit peu trop long.
Voilà, voilà, c'est ça. On dit aussi que pour les mentons voulus, et ça le grand Ampateba le disait, pour les mentons voulus et les talons rugueux, je suis une révélation.
Les mentons voulus.
Donc, oui, on a quand même plusieurs fonctions dedans.
Voilà. Je disais tout à l'heure que vous étiez un récidiviste parce que le conte, vous en avez fait dans votre parcours personnel quasiment un plaidoyer. Vous intervenez dans les écoles pour en raconter. Vous y voyez, Souleymane Bodge, la continuation de votre parcours de philosophe, puisque c'est ça votre formation initiale, vos premières amours, si on
oui,
peut dire.
Oui, c'est qu'en fait, le fait d'aller dans les écoles ou dans les salons du livre ou dans les bibliothèques, c'est un moyen aussi d'abord de partager les histoires, aussi un moyen de transmettre les philosophies africaines, de transmettre aussi la manière de penser dans les littératures orales d'Afrique. Par exemple, on a des contes, j'allais dire, logiques, ce qu'on appelle le Khaïma, qui veut dire calcul. Ce sont des contes où on initie l'enfant à la raison.
Au raisonnement.
Au raisonnement, parce qu'on a souvent entendu que, évidemment, il y a le côté émotionnel en Afrique, mais il y a aussi le côté de la raison. Donc, le fait de raconter ces histoires, ça permet de découvrir d'abord des paysages, ouais, découvrir des pays, et surtout de voir la part qui est universelle dans les contes d'Afrique. Par exemple, les sujets sont des sujets universels. Il n'y a que la forme qui est africaine. Mais quand je parle de... disons d'amour, quand je parle de méchanceté, quand je parle de discrimination, quand je tout ça, ce sont des sujets universels.
Universels.
Parce que le conte nous apprend que la bêtise n'a pas de couleur.
Et associer la lecture des contes à votre autre passion, la musique, Suleyman Butch, c'est une évidence, en fait.
Oui,
vous.
Parce que j'ai beaucoup
l'un
appris.
Ne va pas sans l'autre.
Ah oui, l'un ne va pas sans l'autre. Je ne me déplace jamais en conte sans un instrument de musique.
Mais c'est comme ça que vous les avez entendues, les histoires, enfants ?
Oui, absolument. Parce que le conteur ou la conteuse avait toujours un moment où le conte était chanté. Salmodié, il y avait toujours, quand le héros se déplace, donc il y avait toujours un chant derrière ou un rythme. Par exemple, je peux donner un exemple, au lieu de dire « Sésame, ouvre-toi », on peut jouer un rythme qui permet au baobab de s'ouvrir. Donc c'est comme ça, quand on entend ça à chaque fois qu'on écoute des histoires, la musique s'installe.
Et on peut figurer par le rythme, par la musique, les animaux, par exemple ?
Oui, bien sûr. J'avais fait un conte qui s'appelle « L'antilope qui préférait ses cornes qu'à ses jambes, parce qu'elle disait toujours que ça ne sert à rien d'avoir des jambes. Elle adorait tellement ses cornes qu'elle détestait ses jambes, jusqu'au jour où...
Elle a dû fuir.
Elle a dû fuir parce qu'il y avait une lionne derrière. Et quand l'antilope se mettait en route, c'était toum-tac-tac, toum-tac-tac, une mesure à trois temps.
D'accord.
Alors si je l'écris, je peux mettre une noire, une blanche ou une blanche pointée. Non, là, je vais chanter le rythme. Donc vous voyez, donc le rythme
c'est
de l'antilope.
C'est pas le même rythme si le lionceau, par exemple, qui est dans vos contes et légendes, s'il court dans la savane avec sa petite copine humaine.
S'il court, par exemple, il peut courir très très vite, soit avec ce qu'on appelle des croches pointées, donc tac 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 tac, ou bien quand il chasse le lion ou la lionne, ce sont des rondes. C'est tout, ça fait 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3. Quatre.
Oui. chacun son rythme. Dans ce livre, chaque histoire est associée à une chanson, Suleyman Butch. Et
oui.
Quand on scanne le QR code, c'est extrêmement moderne. Hein, c'est la magie de la technique. Quand on scanne le QR code avec son téléphone, eh bien, on entend votre voix. On est redirigé vers des plateformes, les plateformes d'écoute. Et on entend votre voix. C'est la première fois que ce procédé est mis en place, s'agissant d'un livre de contes, ou en tout cas de vos livres de contes.
Oui, c'est la première fois parce que les autres textes sont déjà sur des plateformes, mais ce sont des reprises que l'éditeur a reprises. Là, j'ai enregistré directement et il n'y a pas de CD. Donc c'est la première fois.
Ouais, c'est en ligne.
C'est en ligne.
C'est immatériel. C'est incroyable. Je me demandais, toutes ces histoires que vous nous donnez à lire, à entendre dans ce dernier recueil, vous les avez puisées où ? Parce qu'on a l'impression d'une source inépuisable, infinie d'histoires dans les contes et les légendes africaines. Vous, elles sont où, vos inspirations, Suleyman Butch ?
Alors, j'ai plusieurs inspirations. La première, évidemment, c'est l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, d'une manière générale. La trame, elle est toujours africaine. Le fond est universel, mais je les invente, en fait, je les écris en fonction de ces trames-là. Par exemple, quand je parle de l'environnement, l'histoire de l'arbuste qui sauva la forêt, ça, c'est une inspiration, tout simplement, parce que je tiens à parler de cela. Mais qu'est-ce que je fais ? J'utilise les trames des contes africains, avec les dictons, avec des proverbes des fois, avec une manière en tout cas de parler, comme on fait en Afrique, c'est-à-dire avec des images.
Mmh.
Donc je m'inspire des traditions orales africaines, mais je m'inspire aussi des traditions universelles, donc que ce soit des auteurs, des philosophes du monde entier, que ce soit en Orient, que ce soit en Asie, en Afrique, donc je lis beaucoup.
Alors quand elles ne sont pas en Afrique, vos inspirations, elles sont où ? Elles sont chez les grands maîtres du conte européen, du côté de l'Asie, chez Andersen, où est-ce que vous allez puiser tout ça ?
Puiser beaucoup chez les Perses, beaucoup. Au Moyen-Orient aussi, beaucoup chez des grands auteurs, aussi chez les Grecs anciens. Donc, évidemment, la taverne de Platon, on a des contes qui ressemblent beaucoup à la taverne de Platon.
À la taverne de Platon. Alors, la bonne nouvelle.
Donc, je vais un peu partout.
Vous allez partout et vous n'avez pas peur de traverser les frontières pour nous raconter des histoires. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez nous en raconter une en direct sur le Pont des Arts, Suleyman Butch. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle, vous l'avez cité,
l'arbuste qui sauva la forêt.
Alors on va vous laisser prendre la guitare pour vous accompagner tranquillement.
Oui, bien sûr.
Pour le premier extrait.
Absolument.
Et puis on en parle ensuite.
Très bien.
C'est quand vous voulez. Voilà.
Mmh. il y a longtemps, très longtemps, au temps où les végétaux pouvaient parler, vivait un arbuste que l'on appelait Genkiliba. Tous les jours, il se lamentait sur son sort. Ah, si j'étais un fromager, les oiseaux bâtiraient leur nid sous mes branches et je dormirais bercé par leur doux chant d'amour. Si j'étais un baobab, je serais l'arbre à palabres sous lequel les enfants viendraient écouter de belles histoires. Si j'étais un rognier, de mon haut sommet, je contemplerais le monde. Mais hélas, je suis un arbuste, touffu, perdu dans cette vaste forêt. C'est injuste. Le fromager qui se tenait à côté en eut assez de l'entendre se plaindre. Alors il essaie de le raisonner. Nous sommes tous issus de la terre, tu es utile comme n'importe lequel d'entre nous. Tu es Kinkiliba et tu le resteras. Ces quelques paroles sages suffirent à donner confiance au Kinkiliba.
Et la mauvaise nouvelle, Suleiman Budge, c'est que l'oiseau messager du roi, la huppe, vient annoncer à tous ces arbres que la forêt va être rasée. Le baobab proteste, mais la forêt doit se préparer à cette échéance. Les arbres perdent leurs feuilles lorsque le roi...
Parce que le roi Amari a décidé de raser la forêt pour construire la plus grande mine d'or du monde.
Voilà, sauf que le roi tombe malade. Étrange maladie qui nécessite l'intervention d'un guérisseur, Sakomadi, qui finit par comprendre, là je résume un peu hein, pour qu'on arrive à la fin de ce conte, qui finit par comprendre qu'il faut l'intervention, il comprend plutôt par l'intervention d'un papillon qui se pose sur son épaule, que le roi a besoin pour se soigner
des feuilles de Kinkiliba.
Des feuilles de Kinkiliba. Et voilà donc notre arbuste sollicité pour guérir le roi qui a l'intention de tuer sa forêt. Vous nous racontez la fin en musique ?
Ben oui, quand Sakomadi le guérisseur est venu voir l'arbuste d'abord lui dit pourquoi je vais sauver ce roi qui veut détruire la forêt et qui veut nous faire disparaître ? Sakomadi, le guérisseur, lui dit « Fais-moi confiance, tout ce que le roi veut en ce moment, c'est se soigner. » Après un long silence, Kinkiliba finit par accepter et lui donner ses feuilles. Le guérisseur retourne voir le roi, prépare une infusion et au bout de quelque temps, le roi fut guéri. Alors, Sakomadi lui raconta dans les moindres détails sa rencontre avec cet arbuste miraculeux. Touché par la générosité de Kinkiliba, le roi et toute sa cour et sa population se rendent dans la forêt. Devant Kinkiliba, le roi se mit à genoux et dit « Je abandonne, j'abandonne mon projet. » de construire une mine d'or. Et je décrète qu'aucun arbre ne sera abattu dans cette forêt. Quiconque abattra un seul arbre sera banni de mon royaume. Et là, la population cria fort, vive le roi, vive le roi. Mais ce qui est intéressant, au même moment, le baobab, le fromager, l'acacia et tous les autres arbres s'inclinèrent comme pour rendre grâce à Kinkiliba qui les avait sauvés. Et c'est depuis ce jour que le Kinkiliba, on le fête, on l'appelle d'ailleurs tisane de longue vie et célébrée dans toutes les contrées. Quand la forêt pousse, on n'entend pas un bruit. Mais quand un arbre tombe, on l'entend. Le métimétiment
nous le tis, dis nos mamans. Nous le métis beauté, d'où le métis. Nous le métis métiment, nous le tis, dis nos mamans. Nous le métis beauté, d'où le métis. Baobam, fromager, kinkiliba, rougni. Lodi joy. Nous le métis métiment, nous le tis, tis nos mamans. Nous le métis beauté, d'où le métis. Baobam, fromager, kinkiliba, rougni. Joy.
Bravo, 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 bravo. L'arbuste qui sauva la forêt, c'est le conte donc qui ouvre ce recueil Contes et merveilles d'Afrique de l'Ouest, Souleymane Bodj avec nous sur le Pont des Arts pour la sortie de ce magnifique album. Je vous observais, Souleymane Bodj, vous aviez le texte sous les yeux, vous ne l'avez pas regardé une seule fois. Cette histoire, elle est gravée en vous et vous la racontez, j'imagine, différemment à l'oral et à l'écrit.
Oui, absolument. À l'oral, parce que à l'écrit, on a des règles, hein, on a des règles d'écriture déjà. On a le nombre de mots, le nombre de lignes qu'il faut respecter. Il y a tout cela. À l'oral, on retrouve le conte dans sa fonction orale, c'est-à-dire qu'on peut improviser, on peut regarder les gens comme en face,
scruter les réactions,
des gens, voilà, et puis même interpeller. Quelqu'un dans la salle, il arrive qu'on interpelle des gens. Voilà, donc c'est pour ça que je fais toujours la différence entre le conte quand il est écrit et lu à haute voix ou bien quand il est raconté. Quand il est raconté, on a plus de liberté, d'improvisation, par exemple. On peut choisir des synonymes.
C'est tout le charme du conte, voilà, évidemment. Donc, voilà. C'est ce charme-là qu'on n'aura pas sur les plateformes, il faut le
non,
dire.
Non,
on aura l'histoire lue sur les plateformes.
Oui,
et pour
on aura
le vrai art du conte, il faut voir Souleymane Bodj en vrai. Ce roi qui est converti à la défense de la forêt, Souleymane Bodj, c'est évidemment, vous disiez, thématique universelle et thématique extrêmement actuelle aussi.
Absolument, parce que c'est dommage qu'il aurait fallu que ce roi accepte dès le début, mais c'est parce qu'il était malade en fait, donc et il avait besoin. Parce que dans le conte, évidemment, quand on le lit, ce guérisseur, je dis, Sakomadi connaissait les plantes médicinales. Donc il savait. Et on sait que le kinkiliba soigne beaucoup de choses en Afrique. Donc moi, mon objectif dans ce conte, d'abord c'est parler de plusieurs choses. Donc défense de l'environnement, défense de la forêt, des grands arbres, défense des petits arbres aussi, mais aussi l'estime de soi.
Ouais.
Parce que kinkiliba, il va être comme un fromager.
Et
il va être
comme dans les fables de La Fontaine, la grenouille qui voulait être un bœuf. Voilà.
Donc il y avait l'estime de soi, il y avait la défense de l'environnement, et puis il y a la connaissance des... le guérisseur qui a une connaissance des plantes.
Il y a une autre histoire dans cet album, c'est l'histoire d'un chanteur, Bambado, qui apprend d'un arbre, un tamarinier en l'occurrence, le langage des animaux, et le voilà donc qui accède aux pensées, aux conversations des animaux de la savane. C'est évidemment une histoire magique, comme on les aime dans les contes, mais qui dit aussi qu'il ne faut pas trahir ses serments, qu'il faut tenir parole.
Oui, surtout là, on est face à une question philosophique très importante, parce que Bambado, le chanteur, a appris avec ce tamarinier le langage des animaux, sauf qu'il ne fallait pas qu'il dévoile le secret. Alors quand on est en face d'un secret, notamment quand des éléphants, il entend des éléphants qui disent il y aura une tornade qui va s'abattre dans la contrée, qu'est-ce qu'il fait?
Il a très très envie de le dire.
Ben oui, pour sauver, c'est-à-dire que là, soit il le dit, il perd sa voix, il ne chante plus,
soit il ne le dit pas. Et la catastrophe s'abat.
Et il y a la catastrophe. Donc lui, il a choisi d'être connu non pas par la qualité de son art, mais d'être connu par son dévouement envers les autres.
Mmh. La fonction morale du conte, pour vous, c'est la fonction principale ?
C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est face à ce dilemme, si je dis le secret, je ne serai plus un très grand chanteur. Si je ne le dis pas, il y aura une catastrophe. Il y aura des morts partout. Parce qu'il y a une phrase dans ce conte où il dit, il regarde, il y avait les hommes, des femmes, des enfants, serrés les uns aux autres. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Je n'arrive pas à les convaincre. Mmh. Il leur a dit, partez, il y aura une catastrophe. Mais les gens lui disent, mais Sakomadi, ah, excusez-moi, j'ai encore Sakomadi, les guérisseurs, Bambado. Mais Bambado, d'où tiens-tu cette information ? Là, il fallait qu'il le dise.
Il trahit ses sources.
Il a trahi ses
sources. Qu'il ne faut jamais faire.
Il a trahi ses
évidemment.
Ouais.
Et on le sait. Souleymane Bodj, connaissez-vous le nom de Didzi Mandjeku ?
Je connais de nom, je ne le connais pas personnellement, mais ouais. Je connais de nom.
Ouais. Donc, alors, c'est notre actualité musicale du jour sur le Pont des Arts, parce qu'il y a un concert prévu demain à Kinshasa avec Didzi Mandjeku, légende vivante de la musique congolaise, 79 ans, virtuose de la guitare depuis, tenez-vous bien, plus de 60 ans. Bonjour Didzi Mandjeku.
Bonjour.
Et merci de nous accorder quelques minutes de votre temps à la veille de ce concert. Cela faisait un moment que l'on ne vous avait pas vu sur scène, seul, à Kinshasa. Comment avez-vous décidé de ce retour ? Comment ça s'est fait ?
Écoutez, c'est grâce à l'Institut français de Kinshasa, qui m'honore, qui a fait ma carrière, et ce que j'apprécie au plus haut point. Donc, ça sera mes retrouvailles avec ceux qui m'ont connu et ceux qui ne connaissent pas la jeune génération. Je suis vraiment ravi de me ressourcer au pays. Et aussi pour honorer les légendes, ceux qui ont fait la rumba congolaise, ce qui est devenu patrimoine mondial et matériel de l'UNESCO.
Et oui. Voilà. Didzi Mandjeku, racontez-nous comment vous vous êtes lancé sur scène. C'était dans les années 60, c'est ça ?
Oui, au fait, j'ai commencé l'apprentissage de la guitare avec un professeur belge, liégeois, qui était professeur au Congo. Et même pas à Kinshasa, mais dans une province, la ville qu'on s'appelait Coclatville, Mbandaka aujourd'hui. Moi, je savais juste gratuiter quelques notes, mais il voulait un guitariste, des musiciens pour qu'on mette un quatuor de jazz. Ce qui fait que je suis uni par la musique du jazz avant de savoir jouer la rumba. Et en 1966, j'ai commencé déjà à me produire avec les standards de jazz avec ce monsieur-là, Marcel Van Broussegain, paix à son âme.
Ouais.
Mais entre-temps, j'écoutais la musique des grands, les Windows, ma maman elle-même, elle était ce qu'on appelle Alain Ganzembo, c'est-à-dire la chanteuse vedette, celle qui entonnait, et le chœur venait après. Elle nous a éduqués en chantant aussi.
Ouais.
Et c'est à partir de 1967, quand je suis allé à la faculté à Kinshasa, à l'université Lovanium, que j'ai commencé à jouer en professionnel dans les orchestres de Kinshasa,
ouais. Tout
en suivant mes cours à la fac.
Alors, vous avez fait partie des African All-Stars de Lokassa Yambongo.
Mais on était même le chef d'orchestre. C'est moi qui ai donné le nom African All-Star.
Ouais.
Le guitariste chef d'orchestre.
Ouais. Et c'était un groupe mythique à l'époque.
C'est-à-dire que j'étais d'abord le guitariste de Taboulé Rochereau, avec Lokassa Yambongo comme rythmicien. Nous avons déserté, quitté l'orchestre de Franco suite à une mélade Taboulé à Abidjan, le 5 mars 1978.
Ouais.
Et un homme d'affaires d'Ivoirien, donc il avait une école. Et on avait un compatriote, un Congolais, qui travaillait comme professeur là-bas. Et comme à cette époque-là, la plupart des grands orchestres, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, des grandes écoles à Abidjan avaient un orchestre.
Mm-hmm.
Alors, mais il n'y avait pas d'orchestre là où mon autre compatriote était professeur. Mais il a proposé à son directeur, et ils m'ont appelé. Bon, j'ai fait une mémo pour lui expliquer s'il investissait, comment son investissement pouvait lui revenir. Il m'a donné de l'argent, on a acheté du matériel et on a commencé.
Ouais.
Un groupe qui s'appelait AMIDA, donc Association Musicale Africaine et Danse, Association Musicale Internationale et Danse Africaine.
Ouais.
C'est comme ça qu'on a commencé.
C'est comme ça que vous avez commencé. Didzi Mandjeku, vous avez prononcé tout à l'heure le nom de Taboulé Rochereau. C'est la rumba des origines, évidemment. Comment est-ce que vous voyez évoluer la scène musicale congolaise aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes auditeur des stars de la rumba congolaise de 2025 ?
Oui, je suis évidemment tout ce qui se passe chez nous, Mais bien que je sois moi de la vieille école, vous connaissez Stroma, évidemment. Son tube, Papa Outé.
Absolument.
C'est moi qui ai joué les guitares. Et ce que font les jeunes, je comprends aussi.
Après une carrière prolifique comme la vôtre, on n'a pas tout raconté là, mais elle est prolifique et elle est longue, hein, ça fait plus de 6 décennies. Oui. Comment est-ce qu'on élabore le programme d'un concert? Vous allez puiser dans le répertoire ancien, dans les collaborations plus récentes, comment ça va se passer?
Oui, mais j'ai bien dit ici que je vais honorer les légendes de la rumba congolaise. Donc, je ne vais pas jouer que ma musique. D'ailleurs, j'ai composé très peu parce que je m'occupais plutôt des arrangements, des compositions des autres. Je vais honorer toutes les légendes comme Franco, comme Docteur Nico, Papa Noël, paix à leurs âmes. C'était vraiment mes mentors. Donc, je vais les honorer, les Tino Barroza, les Wendo, les Bouané, les précurseurs. Et je dois aussi joindre la nouvelle génération, la génération intermédiaire comme le Zaïko. Je vais interpréter des morceaux de presque toutes les époques.
Zaïko Langa Langa, voilà, il y aura toutes les époques dans ce concert. On vous avait entendu sur scène ici en France, il y a quelques années, avec le groupe colombien Alekuma. Vous êtes toujours un adepte de ces fusions musicales, de ces collaborations, Didier Mandjekou?
Oui, Alekuma, je suis le cofondateur. On était deux, le contrebassiste colombien et moi, et les associés. Donc, il y a 6 Congolais et 6 Colombiens. Donc, j'ai littéralement parcouru le monde avec beaucoup de genres. Par exemple, j'ai été guitariste de Zap Mama pendant 10 ans. Et on a parcouru le monde avec ce groupe-là. Ouais. Et comme je jouais aussi avec des musiciens américains ou antillais, travailler sur un bateau de croisière, commencer à Nice, dans les Caraïbes. Ouais. c'est long.
Que n'avez-vous pas fait, Didier Mandjekou? C'est aussi le rôle du guitariste d'être un peu dans l'ombre.
Oui, exactement. C'est ce qui se passe. On voit plus les gens qui sont devant.
Ouais. Vous accompagnez. En tout cas, demain, vous serez bien sur scène à la grande halle de la Gombe, à l'Institut français à Kinshasa. Rendez-vous 18h30, c'est ça?
Exactement, oui.
Et on vous souhaite un excellent concert. Merci beaucoup Didier Mandjekou d'avoir été avec nous.
Merci infiniment.
Le mariage musical de la RDC de la Colombie, Didier Mandjekou et Alekuma avec ce titre, la Canoa Rancha sous les Manbodge. J'ai l'impression que ça vous plaît. Hein.
Ah oui, c'est votre truc, ça, là. Ça swing bien, oui, j'aime bien.
Ça swing comme il faut. Ouais. Vous imaginez, vous, comme Didier Mandjekou, à près de 80 ans, en train de continuer à courir les scènes, les estrades, pour dire des contes partout?
Non, je ne pense pas.
Pourtant, c'est une activité de grand-père, hein, de raconter des histoires.
Qui sait?
On n'a pas parlé des illustrations de l'album. Elles sont magnifiques. Hein. Elles sont. Alors, vous ne. C'est pas de vous. C'est d'une illustratrice chinoise qui s'appelle Ku Lan. Mmh. Vous les agréez, vous les approuvez. Elles servent complètement le.
Absolument, elles sont magnifiques, elles traduisent bien les textes et c'est vraiment très bien.
Ouais, très douce, très colorée, notamment la petite fille Meissa qui Meissa dialogue avec son lionceau. La princesse Timis.
Ah, Timis, oui.
Qui joue son mariage sur une devinette quand même.
Sur une devinette.
Sur une devinette, on l'a dit ?
Oui.
La devinette ?
Oh.
Allez, allons-y. J'ai deux pieds, six jambes, huit bras, deux têtes et un œil. Qui suis-je ?
Qui suis-je ? Un menteur.
Et voilà. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée mariée à quelqu'un qu'elle n'avait pas totalement choisi.
Hein. Voilà, c'est
on,
ça.
Voilà, on trahit pas trop le secret du conte. Des mensonges, il y en a forcément chaque semaine ici, à cette heure-ci, sur le Pont des Arts, dans l'intrigue du Café Polar.
C'est l'heure de Café Polar.
Café Polar sous le signe des arts aujourd'hui, Catherine Fréchon-Toussaint, avec un roman à la fois très documenté et un peu loufoque aussi, où le peintre Magritte, en détective amateur, vient à la rescousse d'un autre génie du XXe siècle, Salvador Dali.
Oui, c'est ce que nous propose l'écrivaine belge Nadine Monfils, autrice prolifique de plus de 80 livres, et qui, il y a quelques années, a eu la facétieuse idée d'imaginer que le grand René Magritte, à qui l'on doit des toiles incroyables, où le rêve côtoie l'humour, par exemple, son tableau le plus célèbre qui représente une pipe est intitulé « Ceci n'est pas une pipe », donc que cet artiste allait avec sa femme être le héros récurrent d'une série policière intitulée « Les folles enquêtes de Magritte et de Georgette »
où elle allait chercher tout ça.
S'amuserait à résoudre des mystères. Et c'est ce qu'ils vont faire ici pour Dali dans ce huitième tome qui paraît aux éditions Robert Laffont sous le titre « Patakès à Cadakès ». Mais avant de prendre la direction de l'Espagne, j'ai demandé justement à la romancière ce qu'elle aimait tant chez Magritte au point d'en faire un personnage littéraire. Nadine Monfils.
J'aime tout chez lui. D'abord sa peinture qui m'a procuré un gros choc, un gros coup de cœur depuis très longtemps. Je suis belge comme lui, on a les mêmes racines. J'ai rencontré sa femme, malheureusement lui il était déjà parti là-haut. Et j'aime son côté surréaliste, mais aussi cette espèce de double facette qui est intéressante chez lui, c'est qu'on a l'impression d'un petit homme tout simple, un bon petit bruxellois comme ça, au chapeau aux boules, comme on dit chez nous autres, et qui en fait était un garnement espiègle, qui a fait les 400 coups, qui a continué encore dans sa vie, même quand il était plus âgé, à faire des blagues. Et on se ressemble assez sur ce plan-là, sur ce côté un peu enfantin qu'on garde quand on est artiste, côté ludique. Mais c'était aussi un gros bosseur et un rêveur et un créateur de génie. J'aimais énormément son univers. Tout ça me parle.
Elle a une vraie passion pour Magritte, hein, Nadine Monfils, ça s'entend. Est-ce que pour autant ça suffit, Catherine, à l'imaginer en Sherlock Holmes belge ?
Eh bien, figurez-vous que oui, parce que c'est l'une des qualités remarquables de l'écrivaine qui a l'art, dans son écriture apparemment débridée, de glisser des faits réels et très documentés. Et à commencer par le fait que, en effet, Magritte aimait beaucoup la littérature policière, la preuve immédiatement avec Nadine Monfils.
D'abord, Magritte était férue d'histoire de détective. Il aimait notamment Rex Stout et enfin voilà, tous ces gens-là. Et il a aussi écrit, ce qu'on ne sait pas, des histoires policières sous pseudo, sous le nom de Rungis Détective. Moi, en fait, c'est tout mon travail des huit tomes de Magritte. C'est un boulot énorme, hein, ça se voit pas, j'espère. Mais j'ai fait énormément de recherches dans les livres surtout. Ces interviews, j'ai retrouvé des gens qu'il avait connus, qui vivent toujours, qu'on croyait morts, qui m'ont dit comment il était, des petites choses du quotidien. Ce que j'ai voulu à travers cette série, moi qui adore lire des suspens, des thrillers et tout ça, je suis souvent frustrée parce que je passe un bon moment, je referme le livre et il ne m'en reste rien. Et j'aime bien quand même une nourriture intellectuelle, on va dire, et qu'il m'en reste des, comme je dis, des traces de pas dans la neige Et c'est ce que j'ai voulu faire avec Magritte, que les gens qui le connaissent découvrent encore plein de choses sur lui, des tas de petits détails, parce que c'est une source infinie, et que ceux qui ne le connaissent pas aient envie de le découvrir. Et ça, ça a vraiment très très bien marché, cette série, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent maintenant qu'ils sont allés à Bruxelles exprès, au musée Magritte, voir ses œuvres et qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils ont découvert tout ça grâce à mes bouquins. Donc là, ça me fait très plaisir.
Bah oui, elle fait le marché, le tourisme aussi, Nadine, mon fils. En tout cas, moi, j'ai appris que Magritte avait écrit des intrigues policières.
Moi aussi.
Je l'ignorais totalement. Elle s'appuie sur la réalité. Ça veut dire, Catherine, que Pataquès à Cadaquès, la nouvelle enquête de Magritte et Georgette, s'inspire de la relation entre Magritte et Dali ?
Exactement. Et pourtant, on ne peut pas imaginer deux artistes si différents, même s'ils sont tous les deux des surréalistes, parce que l'un est très discret et l'autre dans l'extravagance la plus totale. Et pourtant, Nadine, mon fils, nous confirme que ces deux-là s'appréciaient énormément.
Ils étaient amis, ouais. C'est assez étonnant parce qu'on pourrait se dire, bah voilà, Magritte, c'est un homme discret. C'était resté le petit bonhomme dans sa petite maison à Bruxelles avec sa femme, son petit chien, voilà. Et donc, il sortait son chien, les gamins l'appelaient Monsieur Toutou. Et par contre, quand on voit à l'envers du miroir, je parle de ça à dessein parce qu'ils étaient tous les deux très inspirés par Alice au Pays des Merveilles à travers le miroir, on voit Dali qui a l'air d'être la facette extravagante de Magritte, mais en fait non. Dali, pour moi, c'est la facette cachée de Magritte. Je pense que ces deux personnages se sont rencontrés parce que justement, il y avait un effet miroir et que l'extravagance de Dali... aide aussi quand même dans les peintures de Magritte, exprimées différemment, mais il y a quand même quelque chose d'unique, d'onirique aussi, chez les deux. Voilà, il y avait des trucs comme ça de gamin, quoi.
Donc deux amis réunis, Catherine, pour un mystère hors norme.
Oui, un meurtrier en série s'inspire des toiles de Dali en reproduisant des scènes de crime d'après les tableaux du maître, qui en effet a souvent peint la mort. Et du coup, celui-ci est soupçonné par la police espagnole d'être sinon l'auteur, en tout cas l'instigateur de ces horreurs. D'où son appel au secours à Magritte, qui avec Georgette va devoir retrouver le vrai coupable pour innocenter son ami. Alors tout ça est parfaitement réjouissant, oui. Ludique, extravagant.
On imagine.
Et en même temps, ça nous en dit long sur la relation des deux hommes à leur art. Et là, c'est absolument passionnant. Et où on se délecte à la lecture, c'est avec la découverte de plein de mots belges.
Ah.
Par exemple, Kaderbouche, un café. Ah bon, des ouanzes, des blagues. Stoumembourg, c'est un abruti. Parce qu'en effet, même si le wallon est un cousin de la langue française, il a ses particularités et son vocabulaire. Et Nadine, mon fils, le revendique haut et fort.
Je suis née avec. Moi, j'avais une grand-mère qui était bruxelloise et une autre wallonne. Elle ne me parlait que bruxellois ou wallon, donc j'ai baigné là-dedans. Et j'adore ces expressions-là. Elles font partie de mes racines. Et voilà. Même maintenant, je suis mariée avec... enfin, mon mari est français. Et parfois, même après 30 ans, il ne comprend pas. Quand je dis, tu veux me passer la ramassette, s'il te plaît ? Il dit, quoi ? Vous portez les vidanges. Ramassette, c'est, vous appelez ça une pelle pour prendre la poussière, là ?
Oui. Ouais.
Et les vidanges, c'est les bouteilles vides, quoi. Tout des trucs comme ça.
Mais ce qui est bien, c'est que du coup, on apprend plein de choses aussi en vous lisant, quoi.
Ah, tant mieux. Oui. Bah, au début, j'ai eu du mal à imposer ma belgitude parce qu'on me dit, les Français ne vont pas comprendre et tout. Et après, petit comme ça a marché. Là, j'avais fait les vacances d'un serial killer qui a été un best-seller chez Belfond avec plein d'expressions belges. Et je mettais en dessous petit astérix en expliquant de manière comique pour que les Belges qui savent ce que c'est se rigolent et pour que les autres apprennent un truc. Et comme ça a marché, du feu de Dieu, ils m'ont laissé tranquille avec ma belgitude, tant mieux. Et donc maintenant, je parsème, je suis comme je suis, quoi.
Alors, autant le dire, Catherine, la série vous a emballé. C'est vrai que ça a l'air d'être un joyeux mélange entre l'art, l'humour, le mystère. Il y a aussi une note d'émotion.
Oui, parce que dans ce 8e volume, j'ai été frappée de découvrir une silhouette qui suit Magritte partout, comme son ombre, qui se cache un peu, mais que l'on finit par reconnaître, parce que c'est l'autrice elle-même qui est là, à côté de son personnage. Alors, je lui ai demandé pourquoi il s'était glissé dans le roman, Nadine, mon fils.
Parce que je voulais lui dire au revoir.
Parce que c'est le dernier épisode.
Ouais, c'est pas de mon fait, mais c'est comme ça. Pourtant, la série marche très bien, mais comme je disais, bah voilà, c'est cosmique, comme va dire Dali. parfois les éditeurs ont des prérogatives différentes des nôtres. Moi, j'aurais encore bien continué quand même, parce que j'aime beaucoup Magritte, mais je n'ai pas dit qu'un jour peut-être, on ne sait pas. Mais je suis émue en parlant de ça, parce que je pense que les éditeurs ne se rendent pas compte qu'on s'attache à nos personnages. Et je suis restée très attachée à Magritte, c'est pas nouveau, c'est depuis toujours. Donc j'avais envie de lui dire au revoir de manière un peu poétique.
La très touchante et brillante Nadine Monfils qui dit donc peut-être au revoir à Magritte dans ce 8e épisode intitulé Patakès à Kadakès, publié dans la collection La Bête Noire chez Robert Laffont. Et surtout, je vous en prie, allez écouter l'intégralité de mon entretien avec l'autrice. Vous allez rire encore plus parce qu'elle a tellement d'anecdotes à raconter. Et cela est disponible dans le podcast du Café Polar.
Oui, rien que les titres, ça doit être toute une histoire. Merci Catherine. Et merci à Pauline pour le choix des musiques. On y était avec Magritte et son petit chapeau rond. Demain, au programme de Littérature sans frontières, Catherine.
Je reçois l'écrivain algérien Saïd Katibi qui vient de publier un bijou noir qui se déroule en 1988. C'est une année qui a marqué, on le sait, un tournant dans l'histoire de l'Algérie. Et lui a décidé de l'aborder via un roman noir où une chanteuse est assassinée. C'est une métaphore de son pays pour l'auteur qu'il raconte dans La fin du Sahara. C'est à ne pas manquer demain vendredi à 13h30, temps universel.
Et le rendez-vous est pris évidemment sous les mêmes budges quand vous lâchez la guitare et les comptes. Ça vous arrive de vous laisser emporter par un bon polar, une série noire, ou c'est pas votre truc?
Oui, il m'arrive, mais je ne suis pas un grand lecteur de polar.
Ouais.
Mais,
Patakès à Kadakès.
J'aime avec bien les romans historiques aussi, ouais. Ça j'aime bien, ouais. Tout ce qui touche à l'histoire, ça ouais. J'aime bien.
Le Patakès à Kadakès, ça vous tente?
Je pense que si, ouais. Ça m'a donné envie.
Ça fait envie quand même, rien que le titre.
Ça fait envie, rien que le titre. Ouais.
Rien que le titre fait énormément envie. Ouais. Mon compte est terminé, vous qui m'avez prêté vos oreilles, je vous les rends. C'est comme ça que se referme votre album.
Absolument, absolument. Voilà.
Eh bien, merci de nous rendre nos oreilles sous les Man Bodge et merci d'avoir été avec nous en direct sur RFI.
Merci à vous.
Contes et merveilles d'Afrique de l'Ouest à lire chez Milan et à écouter donc sur toutes les bonnes plateformes. À la réalisation, il y avait Stephen Elsley, Damien Roucou pour la programmation. Merci pour votre fidélité à l'écoute. RFI.fr et l'application RFI pour nous écouter, évidemment. Et demain sur le Pont des Arts, rendez-vous avec Smarty.
N'écoute pas ces dandies, fuis tous ces machos. L'humanité a grandi dans les bras de ton dos. N'oublie jamais, petite sœur, demain sera une mère. Prends soin de ton petit cœur, l'homme a un goût amer. Lève donc la tête, marche avec assurance. Entreprends et montre au monde tes compétences. Scintille comme une étoile sur le trajet de l'endurance. L'humanité est femme et la femme c'est la confiance.
Ouais, c'est une star du rap au Burkina Faso et en Afrique en général. Smarty qui sera le 1er juin en concert au Casino de Paris et qui passera donc par nos studios. Bonjour Annie Gassier.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Vous prendrez le relais dans 10 minutes pour Radio Foot International avec au programme aujourd'hui.
Au programme l'Inter Milan qui sera l'adversaire du Paris Saint-Germain dans 2 jours exactement pour la finale de la Ligue des Champions. Et donc vous saurez tout sur l'Inter, ses joueurs, son entraîneur et l'ambiance en Italie.
À tout de suite, Annie, dans un instant, le journal
C'était
en français facile.
C'était sur le Pont des Arts, avec la compagnie Corsair et ses vols vers Paris, l'Afrique et l'océan Indien.